Maine-et-Loire. Le 30 juin dernier, la République démocratique du Congo a célébré le 64e anniversaire de son indépendance, un anniversaire qui a eu lieu alors que les populations, particulièrement du Nord Kivu, sont obligées de se déplacer constamment pour fuir les tueries de l'insécurité. Les premières victimes de cette situation sont les femmes et les enfants. Entre-temps, les défenseurs des droits de la femme continuent de se battre pour la promotion de ces droits en exigeant notamment la prise en compte de la parité dans les institutions politiques du pays. Les femmes congolaises reconnaissent certes aujourd'hui des avancées avec entre autres la nomination récente d'une femme comme première ministre de la République démocratique du Congo, une première depuis 1960. Toutefois, elles estiment que la lutte pour leurs droits doit se poursuivre. Quel bilan dresser de la lutte pour la promotion des droits de la femme en RDC de 1960 à ce jour? Et que faire pour promouvoir toujours mieux les droits de la femme dans le pays? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec Linda Endundu Bononge, personnalité politique, job et business facilitatrice et formatrice également, cofondatrice du groupement des femmes politiques indépendantes, membre de l'Union sacrée de la nation. Linda Endundu, bonsoir.
Bonsoir.
Dans ces studios également, pour pouvoir faire cette émission, il y a le professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour le pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir.
Et pour compléter la composition de ce soir, Chantal Moboni, bonsoir.
Bonsoir.
Chantal Moboni, vous êtes secrétaire nationale chargée de la communication du parti politique SID et communicant de la plateforme La Mouka. À tous donc, bienvenue dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
La République démocratique du Congo a commémoré il y a quelques jours le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et ce soir, nous nous retrouvons dans cette émission pour évaluer cet anniversaire en rapport avec les droits des femmes congolaises. Y a-t-il eu évolution bénéfique ou pas? Cynthia Bachizi nous indique par exemple, au sujet du gouvernement qui dirige la RDC depuis un mois, le nombre de femmes est passé des 18 femmes contre 26 hommes, soit un pourcentage de 32%. Écoutons donc son décryptage.
L'équipe Souminois aligne ainsi 4 femmes au rang de ministre d'État. Il s'agit de Thérèse Wamba Wagner aux affaires étrangères, Raïssa Malou à l'éducation nationale, Eve Bazaïba à l'environnement, Akasia Badumbola aux affaires foncières. 6 femmes occupent des postes de ministres. Il s'agit de Chantal Mwadian-Vita aux droits humains, Safi Songoyan et la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur, Nathalie Aziza aux affaires sociales et solidarité, Léonie Kandolo et la nouvelle ministre du genre, famille et enfants, Yolande Elébé est ministre de la culture et Noëlla Ayeganagato Nakuipon est la nouvelle ministre de la jeunesse et éveil patriotique. Sur les 4 ministères délégués, 2 sont occupés par les femmes. Sambo Diata garde son portefeuille du ministère délégué près les affaires sociales et personnes vivant avec handicap. 5 femmes occupent des postes de vice-ministre dont 2 sont reconduites. C'est notamment Onège Sélé qui garde son portefeuille comme vice-ministre des Finances et Wivine Moleka comme vice-ministre aux hydrocarbures. Les nouvelles figures sont Ejoni Tshiela Kamba, qui est vice-ministre de l'Intérieur, et Lise Mokwamwana Maposo, qui est vice-ministre du Budget. Figure de sport très connue, Bestine Yamba Kazadi est nommée vice-ministre des Affaires étrangères.
Linda Endundu Bononge, personnalité politique, job et business facilitatrice et formatrice, également cofondatrice du groupement des femmes politiques indépendantes, membres de l'Union sacrée de la nation. Notre mission ce soir, c'est d'essayer de décortiquer et d'essayer de sortir l'état de la situation de la femme aujourd'hui. Peut-être en 1960, vous étiez déjà en vie ou pas, mais nul n'est besoin d'avoir été là. Pour vous-même, pour ce que vous monitorez et pour les objectifs que vous voyez pour la femme de la République démocratique du Congo, 64 ans après, quel bilan vous faites de l'état des droits de la femme congolaise.
Alors, d'abord, j'aimerais souligner que le groupement des femmes politiques indépendantes comprend des femmes de différents partis. Mais effectivement, moi, je fais partie d'un parti qui a adhéré à l'Union Sacrée, donc je suis Union Sacrée. Quelle est l'évolution depuis 1960 ? Il y a eu beaucoup d'avancées avec chaque président qui s'est présenté. Déjà, on peut dire qu'en 1960, on a eu la première femme ministre, Madame Sophie Kanza, ministre des Affaires sociales, ce qui était quand même une avancée. Ensuite, on a vu que sous Kassavou, donc, et Lumumba, ensuite on a vu que sous Mobutu, il y a eu une sorte d'émancipation de la femme dans le sens où il y a eu droit au vote, ce qu'il n'y avait pas eu dans les années 60. Le droit au vote, beaucoup d'accessibilité. Si je ne me trompe pas, c'est à l'époque du président Mobutu que Madame Jolie a été la première à avoir son permis de conduire. Quand on pense que, par exemple, l'Arabie Saoudite, ça fait pas trop longtemps que les femmes en Arabie Saoudite ont le droit de conduire. L'avancée de la femme... La femme a eu un poids quand même dans les indépendances aussi, parce que c'est parce que les épouses de militaires ont manifesté et ont dit que avant l'indépendance et après l'indépendance, ça peut pas être la même chose. Qu'on s'est retrouvé avec des militaires qui finalement ont pu accéder à des postes, mais aussi des militaires qui pouvaient porter des pantalons et non plus des culottes. Hein. Donc, il y a un poids quand même qui a été donné à la femme ou que la femme a pris. Bon, on peut, certaines personnes pourront dire que sous Mobutu, il y a eu un problème parce que on a imposé une certaine manière de s'habiller aux femmes. Donc là, ça a rapport aux mœurs, le libaya, le liputa et tout, plus le droit aux pantalons, aux mini-jupes et tout. Quand même, on peut dire que sous Mobutu, il y a eu le ministère des femmes. Conditions féminines. C'était le ministère de la condition féminine. Avec Mzé Kabila, je cherche. Est-ce qu'il a eu le temps de vraiment mettre en place quelque chose sous Joseph Kabila? Bon, on peut dire quand même que avec, je pense que c'est sous Mzé Kabila que Bernadette Tokwaoulou a pu quelque part se positionner et sous Joseph Kabila prendre la place qu'elle a eue, notamment en tant que mandataire. Je crois qu'elle était affectée comme numéro 1 de c'était la SNEL ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, c'est bien. Oui, avec Kabila finissant.
Il y a eu des avancées, mais il y a eu des reculs puisque, comme vous dites, la femme a été l'outil utilisé pour attaquer la République démocratique du Congo, c'est pas pour rien, parce que en fait, c'est la femme qui tenait le Zaïre pendant un bon moment, lorsqu'il y avait des impayés, c'est la femme qui a tenu, qui a payé les Minerva, les transports, pendant qu'on avait des 100 mois, 200 mois, 300 mois d'impayés. Et je pense que nos ennemis se sont rendus compte que c'est la femme congolaise, zaïroise, qui... Mais j'aimerais quand même souligner quelque chose, c'est qu'on parle des avancées. Est-ce qu'on peut parler des avancées ou bien c'est le retour aux droits des femmes? Parce que sous la colonisation, la femme, on était dans un système matrilinéaire avant la colonisation belge, parce que je ne parlerai pas, certains diront qu'il n'y a pas eu de colonisation portugaise, mais on peut dire que c'était une sorte de colonisation. On avait un système matrilinéaire où la femme avait beaucoup à dire. Et aujourd'hui, après la colonisation, pendant la colonisation, beaucoup de rois ont été transformés en chefs de village. Hein, on les a appelés des rois. Après, on a réduit leurs compétences. Mais avant qu'on soit colonisé par les Belges, il y avait des femmes reines. Et nous avons encore des descendantes princesses. Il y avait des femmes reines parce qu'elles héritaient du pouvoir ancestral en tant que souveraines, mais il y avait aussi des femmes reines parce qu'il y avait des systèmes sur notre territoire du Grand Congo, donc là on dépasse la RDC, où les femmes, comme le film des Amazones de Dahomey, pouvaient jouer le rôle de reine sans être épouse du roi. Hein? Donc ça, c'était quand même une situation où l'homme acceptait de gérer avec une femme qui n'était pas son épouse, avec laquelle il ne partageait pas le lit.
Okay. Linda Ndundu, j'imagine que nos auditeurs s'émerveillent de vous écouter comme ça égrener un peu la marche hein, de la femme, un peu dans le monde, mais un peu en République démocratique du Congo. Mais pour, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour essayer de circonscrire plus ou moins ce que nous allons essayer d'évaluer ce soir, vous qui êtes femme et qui êtes dans des organisations aussi qui militent pour les droits de la femme, c'était quoi votre politique, votre visée et enfin les objectifs que les organisations féminines de la RDC voulaient atteindre en parlant des droits de la femme congolaise. Il y avait quoi à rechercher et par rapport à ce quoi qui était à rechercher, comment les choses ont évolué? Est-ce que c'est globalement positif? Est-ce que c'est milieu? Ou bien vous pouvez considérer qu'il ne s'est rien passé du tout?
C'est globalement positif, puisque nous étions, les femmes en général voulaient avoir plus de droits.
Politique, social, financier.
À tous égards. Mm. Parce que, par exemple, sous Joseph Kabila, la femme n'avait encore pas le droit de travailler sans l'autorisation de son mari. Mm. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte sans son mari. On peut dire que sous Joseph Kabila, les lois qui ont permis d'enlever le statut mineur d'une femme, parce qu'elle restait mineure même quand son fils devenait adulte. Majeur. Oui, devenait majeur. Donc ça, c'est un droit qui a été acquis quand même. Et alors, le droit à la gestion politique a plus de visibilité politique, mais je pourrais dire que comparé à l'Europe, ce n'est les femmes qui veulent aspirer à la politique, quelques-unes, c'est pour des raisons personnelles, de carrière politique ou administrative publique, mais d'autres, c'est parce qu'elles veulent être complémentaires pour la gestion de l'État, parce qu'elles pensent qu'elles peuvent ajouter quelque chose. Ce n'est pas dans le sens de l'égalité. Moi, je suis la même chose qu'un homme. C'est mettre la main à la pâte en complémentarité. Et nous, d'ailleurs, le groupement des femmes politiques indépendantes, on est pour la parité, mais on est pour l'avancement de la jeunesse. Donc la femme africaine et la femme congolaise pensent aux enfants, mais pas seulement aux enfants de sa famille, aux enfants globalement. Donc voilà, c'est-à-dire c'était illogique que les femmes se retrouvent dans certaines situations, par exemple de cette minorité légale, okay, alors qu'elles soutenaient toute la famille. Il y a aussi des contrées dans lesquelles il y a eu des abus vis-à-vis des femmes du fait de ce qu'on peut dire des gestions coutumières qu'on soi-disant on colle ça à la tribu, ok. Mais par exemple le mariage des mineurs, qui n'est pas un problème que congolais, puisqu'aujourd'hui, jusqu'à présent aux États-Unis, dans chacun des États des États-Unis, à part un, il y a eu un procès qui a été gagné, on marie des mineurs, des filles de 10 ans, 11 ans aux États-Unis. Peu de gens savent ça. Donc, voilà, il y a comme ça des choses bien précises. Par exemple, les droits de la femme lorsque le mari décède. On voit aujourd'hui que ça a créé beaucoup de problèmes avec des femmes qui ont été poussées à la rue, avec des
enfants, par exemple, est-ce que par exemple sur cet aspect-là, de l'héritage, de la succession, de l'accession à des droits, surtout conjugaux, que le mari peut laisser à la femme, est-ce que sur cet aspect par exemple, la RDC, vous pouvez dire qu'elle a aussi progressé? Comme sur le plan politique ou reste encore en arrière?
Oui, il y a eu progrès, sauf que, c'est un problème culturel. Il y a eu progrès dans le sens où légalement, la femme a un droit, normalement, elle a droit à rester dans la maison où elle habitait avec son mari, ses enfants ont certains... Elle a pratiquement même plus que la moitié, quelque chose comme ça.
Ça, c'est par rapport à la loi, mais est-ce que l'État congolais veille que ça soit appliqué dans votre monitoring?
La problématique ici, c'est l'État congolais. Il y a l'État congolais, il y a le peuple congolais. Beaucoup de lois coutumières ne sont pas au même diapason que la loi de l'État congolais. Donc souvent, quand ça arrive, ce n'est pas seulement l'appât du pécunier. C'est parce que nous avons des tribus parmi les 450 que nous avons qui préconisent que ça se passe comme ceci, comme cela. Et donc, est-ce qu'on peut parler d'un avancement de l'État, vu que c'est la coutume, ce n'est pas l'État qui est en cause ici.
C'est plus les mentalités.
C'est plus les mentalités.
Merci. On revient à vous, Linda Bononguet, personnalité politique, job et business facilitatrice et formatrice. Nous restons avec vous dans cette émission pour la suite. Chantal Mobouni, secrétaire nationale chargée de la communication du parti politique SID et communicant de la plateforme Lamouka. Ce soir, on essaye de mélanger un peu le passé avec le présent. Quel est votre bilan de 64 années par rapport aux droits de la femme congolaise?
Merci de la question. La femme dont question aujourd'hui, c'était le socle de la famille. C'est une puissance démographique et une puissance économique parce que, vous savez, si je peux même prendre seulement la période de pillage de 92 jusqu'à ces jours, c'est elle qui tient l'économie informelle. C'est elle qui se bat pour la famille. Donc c'est elle aussi qui est la victime des atrocités, surtout dans la partie est de la République, où nous subissons de violences de tout genre. Donc vraiment cette émission, je la dédie à la femme déplacée de l'est de la RDC. Pour répondre à votre question, je vais dire d'abord que la lutte de la femme, comme nous, je suis également présente de l'ONG Action de Femmes de Valeur. Je suis aussi femme politique, comme vous m'aviez présenté, secrétaire nationale en charge de la communication de l'ESID et communicante de l'AMOKA. À notre niveau, les combats se situent au niveau d'une seule phrase, c'est-à-dire à compétences égales, les fonctions égales et les rémunérations égales. Donc, parce que nous avons constaté qu'il y avait une discrimination, que ça soit sur le plan de nomination, que sur le plan de le plan professionnel dans les entreprises publiques ou privées et partout. Donc la lutte a consisté à pouvoir mettre la femme pour bénéficier de mêmes avantages, parce que la Constitution nous dit que nous naissons égaux en dignité et en droit.
Chantal Mobouni, Chantal, oui. Vous voulez à ce stade dire que selon ce que vous êtes en train de décrire comme visée ou recherche des droits de la femme congolaise, à votre entendement, il n'est pas question ici de parler d'égalité biologique ou d'égalité dans les rôles sociaux?
Non, le problème c'est que nous avons été créés, l'autre femme, l'un homme, chacun a ses responsabilités, mais nous n'allons pas changer nos sexes. Nous allons nous battre de façon que nous puissions jouir de mêmes droits en tant qu'être humain et puis jouir de mêmes droits en tenant compte des réalités sexo-spécifiques de chacun. Donc c'est en ce sens-là que les lois qui se prennent au niveau de Parlement puissent tenir compte aussi de ces réalités sexo spécifique, comme dit la Convention de Beijing. Donc, moi, pour répondre à la question, je dirais que par rapport à la lutte pour le droit des femmes, la situation est évolutive, mais il y a encore beaucoup à faire. Si je prends les plans juridiques, sur le plan juridique, il y a de grandes avancées du fait que aujourd'hui, nous avons déjà l'article 14 dans la Constitution et nous sommes allés même avoir la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application de cet article 14, c'est-à-dire la loi organique. Donc, à ce niveau, il y a l'avancée. Par rapport au cadre juridique, je peux encore dire que nous avons ratifié, la RDC, bien sûr, a ratifié la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'endroit des femmes, a ratifié le protocole d'accord de la SADC sur le genre et le développement, a ratifié la résolution 1325 en mettant en exergue le rôle de femmes dans la prévention et la résolution de conflits et la consolidation de la paix, dont nous avons ratifié aussi la convention, disons la déclaration universelle des droits de l'homme, et à ne pas oublier le protocole de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes. Donc par rapport au cadre juridique, nous avons même eu le code de famille qui a été revisé, c'est-à-dire sur le plan...
Chantal Mobouni, vous êtes avec nous? Allô? Nous sentons qu'il y a des difficultés de communication avec les lignes téléphoniques.
Par rapport à notre société, à notre culture, par rapport à notre société, à notre culture, il y a un cliché sociétal qui est collé à la femme. Vous avez des préjugés sur la femme quand on vous dit moi c'est Atonga Kambokate, Koliana moi c'est Koliana Ndoki, Ndoka moi c'est Limbi Sakate. Vous voyez tout cela. Il y a un problème. Quand vous regardez encore le rythme de veuvage, quand il y a des successions, tout ça, il y a des problèmes. Pourtant, la loi est là. La femme a droit à 25%. Il y a 25% pour la famille du défunt et il y a 50% pour les enfants. Mais sur le plan de l'applicabilité, ça pose problème. Il y a encore un problème dont on doit continuer la lutte. Sur le plan de l'éducation, il y a une évolution parce que les taux de scolarité de nos enfants, de nos jeunes filles, aujourd'hui, ça a évolué parce qu'avant, il y avait ce problème-là. Le parent, quand il n'y avait pas assez de moyens, voulait plutôt scolariser les garçons que la fille. Parce qu'il se disait, la place de la femme, c'est le ménage, c'est le mariage. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est en train d'être évoluée dans la société. Aujourd'hui, on comprend qu'il y a deux filles, il y a deux femmes qui excellent, qui vont... plus loin, et aujourd'hui nous avons des femmes qui la femme qui a fait le robot qui nous aide ici pour la circulation routière, c'est une femme. Vous voyez, il y a des femmes aiguilleurs de cieux, il y a des femmes qui font de la technique partout, les femmes sont là. Mais sur le plan de nomination politique, par rapport aux nominations politiques, c'est vrai quand on dit que c'est la première fois que nous ayons une première ministre femme, c'est bien. Mais dans la pensée de la femme, nous aurions voulu que cette première ministre ait toute son autonomie, puisse influencer par rapport à sa vision pour permettre à ce que le peuple congolais retrouve un peu de louve de soulagement. Sur le plan de nomination, nous remarquons quand même que en homme de femme, mais ça demeure encore un caractère événementiel. Ce qui ne pourrait pas être bon, nous pensons que par rapport à la lutte que mène la femme, par rapport à la place de la femme dans la société congolaise, sur le plan de la démographie, comme je donnais dans mon introduction, que ce soit sur le plan de l'économie informelle, que ce soit sur le plan de l'éducation et tout, nous pensons que c'est important que ça ne soit pas événementiel, mais que ça soit structurel, qu'on puisse étudier le voie aux moyens permettant à ce que la session de femmes dans des postes de décision n'ait pas ce caractère circonstanciel ou événementiel. Et nous devons aussi dire que quand nous parlons de la parité, nous ne voyons pas que la femme politique, parce que dans le monde professionnel, la femme est en train de subir toutes sortes de violences. La femme, pour être promue, il y a beaucoup de conditions, même si la loi est là, mais il y a deux problèmes. Donc nous aurions voulu que cela n'aille pas ce caractère événementiel, mais plutôt que ça soit vraiment structurel, que ça soit vraiment pertinent pour pouvoir aider notre société.
Madame Chantal Bouni, peut-être vous allez essayer de préciser tout à l'heure, parce que vous entendez que ça soit structurel. Moi, j'entends que ça soit indiqué dans la loi ou que ça soit inscrit dans certains textes. Mais même si vous qualifiez cela de événementiel, est-ce que ce n'est pas à applaudir avec les mains et les pieds le fait que depuis un mois, la RDC a une première ministre, vous l'avez mentionné, je le souligne avant de poursuivre, une première ministre pour la première fois de son histoire, et qu'à part la première ministre qui est 4 ministres d'État, et qu'à côté de 4 ministres d'État, il y a 6 ministres et plus des vice-ministres, ça fait au total 18 femmes contre 26 hommes, même si ce n'est pas inscrit dans les textes, est-ce que ce n'est pas explosivement positif?
J'ai dit aussi que la situation est évolutive parce que nous voyons que les femmes sont nommées. Et je ne suis pas contre cela, j'ai vu ça. Mais je suis allée au-delà pour dire que la nomination de femmes ne peut pas avoir un caractère événementiel ou un caractère de marketing politique. Ça doit être normal parce qu'on a nommé les hommes, ça n'a pas fait un fait de marketing politique. On nomme des femmes, c'est bien, on encourage, c'est très bien. On n'a pas dit qu'on est contre, parce qu'on est congolaise, c'est notre patrie, c'est la lutte de la femme, on ne peut pas dire que tout est mauvais, non. Mais le problème, c'est que nous, par rapport à cette lutte, la femme est nommée, mais que cette femme ait aussi la latitude de pouvoir incarner sa vision. Là, c'est aussi un autre aspect de la lutte que j'ai souligné. Donc, je ne suis pas contre que la femme soit nommée, et j'ai dit que la situation, elle est évolutive. Donc, par évolutive, c'est-à-dire nous tendons vers le bon. Donc, c'est évolutif, mais il y a encore beaucoup à faire.
Après, Chantal, c'est ce que j'avais dit. Oui, Chantal Mobouni, on reviendra tout à l'heure avant de clôturer cette émission pour proposer concrètement qu'est-ce qui reste à faire pour atteindre la pleine satisfaction et dans quel domaine. Donc, préparez-vous à nous donner les éléments assez détaillés sur ces préoccupations. Nous restons avec vous dans ce débat. Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et institutions supérieures de la République démocratique du Congo et d'Afrique. Que pensez-vous de ces évaluations que vous avez entendues de nos deux premières intervenantes, et vous-même, en tant que scientifique et congolais homme, quelle est votre évaluation des 64 années de lutte, de recherche des droits de la femme congolaise?
Je manque par où commencer, mais je commencerai par un waouh. Vous voyez déjà. Les deux interventions sont musclées.
Très musclées.
Personnellement, je suis très satisfait. Je pense que je vais tout faire pour ne pas répéter peut-être certains éléments pour raison de temps. Essayer de passer un peu à autre chose. Mais je dois d'abord...
Déjà dans la réqualification des objectifs poursuivis dans la lutte des droits de la femme congolaise, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui s'est éclairé, qui s'est amélioré ou peut-être qui se confond encore?
Là, je vais vous décevoir un peu. Vous allez m'excuser. Je vais essayer de faire un peu la philosophie. Mais avant cela, on parle de 64 ans, n'est-ce pas, d'indépendance. Et pourtant, le bilan est généralement mitigé. Ça, c'est le premier vrai problème. Et que, avant même de dire d'autres mots, toutes nos compassions à toutes les femmes, qui meurent un peu matin, midi, soir, qui nous nourrissent, effectivement, par rapport à toutes les difficultés qu'on a. Vous savez, on a plus, selon mes propres enquêtes, plus de 83% des gens qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, mais la femme, sur les 83%, elle-même représente encore une fois plus ou moins 80%. Donc la femme est plus pauvre en République démocratique du Congo que l'homme, globalement, encore une fois. Et quand on prend les gens qui sont violés, il y a parmi nos co-débatteurs qui l'ont bien souligné, nous avons par exemple pour les camps du Lac Vert, ça va, beaucoup de déplacés, mais sur le 45 000 personnes pour les camps de 8e Sepharta, hein, un peu d'une façon précise, eh ben, c'est plus de 25 000 sont des femmes. Donc largement majoritaire, et que nous avons des cas de viol matin, midi, soir. Et exactement, si nous prenons, là nous n'avons pas de vraies statistiques, c'est à rechercher, si on prend plus ou moins 10 millions des Congolais déjà tués par ces affres, on parle de génocide, nous sommes parmi les précurseurs du génocide, effectivement, avec Kayep, et bien écoutez, c'est encore une fois plus de 65% des femmes. Donc c'est un peu comme si qui dirait, ce sont les femmes qui sont plus tuées, plus égorgé. Je pense que les gens voient un peu de photos, etc. Et si vous observez très bien, c'est plus des têtes, etc., de ventre, effectivement, troués, etc., de femmes, encore une fois. Donc, j'estime effectivement que les femmes sont vraiment victimes, plus que de victimes hommes, et que la situation n'est pas du tout bonne.
Alors, donc, désolé. Selon votre intervention jusqu'ici, malgré des avancées sur le plan juridique, des avancées sur le plan éducation, évolution sur le plan notamment des nominations politiques, où tout le monde s'est retrouvé pour dire qu'il y a évolution globalement, vous pensez que aujourd'hui, puisqu'il y a surtout les femmes qui restent pauvres, il y a les femmes qui sont globalement les plus tuées dans l'insécurité de l'Est, est-ce qu'on peut conclure que les droits des femmes, selon vous, ne sont pas améliorés suffisamment?
Vous savez, il s'agit ici des domaines de définition. Ça va. Si on doit considérer les domaines de définition de la pénétration politique, l'amélioration, c'est sorti de, si je ne m'abuse, des 17% à 32% de la représentation des femmes dans les institutions. Ben, qui va dire que ce n'est pas positif? Voilà, là, il y a du positif. Si on doit parler de l'article 14, effectivement, qui spécifie, qui parle de l'égalité des femmes, etc., ben, qui va dire que ce n'est pas positif? Mes collaborateurs l'ont si bien dit, c'est positif. Si on doit parler de lois au niveau international où on n'en parle, c'est positif. Mais ben, les domaines de définition, c'est différent. Ce qui fait que moi, si je dois prendre, avec ma philosophie, que j'ai tégémé à Tomi Lukela, tout ça, sangue, moi aussi, Kebela, c'est-à-dire que l'intérêt du vrai peuple congolais, ça va. Si on doit comprendre que moins de 20% des Congolais sont riches, c'est-à-dire qu'ils sont aisés, comme on peut le voir. Donc, on a 80% des plus riches, de moins riches et des pauvres. Donc, les domaines des définitions sociales, n'est-ce pas? Certes qu'il y a des avancées, mais franchement, ce n'est pas un vrai Congolais qui va me dire qu'on a tué plus de 12 à 13 millions de Congolais et qu'effectivement, c'est-à-dire qu'au moins 8 millions, plus ou moins 7 à 8 millions de femmes qui ont été égorgées et violées, ben la Ligue de Mukwege est claire aussi dans ce sens-là. Donc tout dépend du domaine des définitions. Si on doit parler de l'aspect économique, la femme qui nourrit les Congolais dans l'informel tous ces temps, pensez-vous que c'est possible? Moi, avec la JPC, Association des Jeunes pour la Promotion de la Culture, eh ben, on encadre tellement de femmes et vous voyez la misère avec vos yeux. Alors, pensez-vous que c'est positif? Si on doit parler des malarias, des choléras, un peu de la vie au quotidien, ça va, c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de domaine des définitions, n'est-ce pas? Si on prend le social du Congolais, si le Congolais est pauvre, les chiffres au niveau mondial indiquent que nous sommes parmi les 5 pays les plus pauvres, et que je viens de vous donner mes propres chiffres, donc, dans toute cette pauvreté, c'est encore la femme qui est encore la plus pauvre. Alors applaudissons. Ben non, je ne pense pas qu'on devait applaudir malgré les efforts qu'on doit noter. Ça va, du côté juridique, du côté des textes, du côté de cette bonne volonté, du côté, parce que franchement, on doit féliciter les chefs de l'État. Quand même, Premier ministre, quand même, on sort, c'est la première fois, au Parlement, nous avons, et il faut le dire, c'était pratiquement exigé par le chef de l'État, où il a dit, je ne reçois pas la liste de la majorité, je pense qu'on a une représentante de la majorité, je ne reçois pas la liste de la majorité parce qu'il n'y a que deux hommes, si je ne vois pas des femmes. Il a dit devant tout le monde, comment ne pas féliciter ça par rapport à la lutte de la femme? Tout ça c'est bien, mais si vous vous limitez à ces domaines de définition, il y a avancé. Mais si vous prenez le social du Congolais qui dégringole, et malheureusement, moi, professeur docteur David Salé, c'est ce qui m'importe. Je pense que j'ai critiqué tous les aspects macroéconomiques, macro-structurels de la République démocratique du Congo et de pays qu'on appelle, entre guillemets, sous-développés en voie de développement, parce qu'on prend les mauvais agrégats. On ne prend pas les agrégats micro-économiques et micro-structurels qui considèrent effectivement le ménage, qui considère la femme, la vraie femme, s'il vous plaît, la femme représentative. Parce qu'il ne faut pas voir des femmes un peu en bagnole, etc., qui ont du travail, et vous dites que c'est ça la femme. C'est certes une représentation, comme je l'ai dit, c'est positif, mais quand on prend la moyenne en tant qu'enseignant, nous sommes obligés de parler de moyenne, moyenne statistique. Donc là, il faut dire que les femmes, ça s'est amélioré, mais globalement, la République démocratique du Congo n'a pas fait du surplace, a fait du recul. Donc comment vous voulez que globalement, que la République démocratique du Congo ait fait du recul et que vous dites que la femme a avancé? Alors, il y a un domaine important, ça va? Et je parle de la formule magique du professeur Dr Dadi Salé, ça va? Je parle de la philosophie Kujitegeme, effectivement, où dans cette philosophie, je parle de la philosophie du développement de la femme, ou bien des droits de l'homme.
Après, professeur Dadi Salé, tout à l'heure, avant qu'on termine l'émission, justement, vous nous prendrez le temps de nous proposer certaines pistes de solutions. Je vous sens déjà en train de venir.
C'est
l'objectif de cette émission.
Il y en a.
D'accord. C'est le moment pour nous d'ouvrir le standard pour écouter aussi, à part vous, participants de cette émission, les auditeurs qui sont nombreux à nous suivre et à réagir à travers les nombreuses plateformes de Radio Okapi et en FM aussi. Il y a par exemple Aimé Mumbere qui est content de suivre l'émission, il le dit, et puis il ajoute, merci pour ce thème, je note en passant que le pays connaît une légère amélioration, au mieux un pas de plus dans la promotion des droits de la femme, reste que une femme, bon, la suite n'est pas très bien lisible. Je vais lire une autre réaction et peut-être Madame Ndundu pourra réagir, puisque je pense que c'est après sa prise de parole que cet auditeur ou cet intervenant a pu réagir. Il dit, voilà l'erreur de nos femmes. Lorsque la dame parle de l'évolution sous Kabila en supprimant l'autorisation maritale, elle pense que c'est une évolution, il s'interroge. Or, cette histoire crée des sérieux problèmes dans les foyers. Selon moi, il y a recul car nous avons oublié nos cultures. Voilà, je m'arrête par exemple là. Madame Ndundu, vous pourriez tout à l'heure peut-être essayer de préciser votre pensée. Professeur Dadi Saleh, vous allez continuer de réagir, mais pour alimenter vos propos, nous allons d'abord écouter cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
C'est Japheth Eunga depuis la ville de Kinshasa. La situation sécuritaire de la partie orientale préoccupe tous les Congolais qui aiment bien son pays. C'est inacceptable de voir nos mamans et nos sœurs soient violées par les rebelles. À ce qui concerne la question de l'égalité au sein des institutions, les défenseurs des droits des femmes devraient faire un effort de pouvoir enseigner aux femmes de se battre pour arriver à arracher ce qu'ils sont en train de chercher, car sans la méritocratie, elles n'arriveront pas à trouver la solution dans leurs revendications.
Professeur Dadi Saleh.
Oui, il a tout à fait raison, je pense, globalement. Hommage d'abord à toutes les femmes de Oazalendo, parce qu'il y a beaucoup de femmes, hein? Beaucoup de gens ne le savent pas peut-être, il y a beaucoup, énormément de femmes. Hommage à toutes les femmes qui se battent dans le FARDC et dans le service de sécurité. Et là, ce que l'auditeur vient de dire me rappelle que à Kirumba, à Kaina, juste vers Kanyabayonga, c'est là où se trouve effectivement le sépulcre de mes grands-parents du côté de ma mère, hein? Du côté de mon père, c'est plutôt à Kasongo, du côté de ma mère, et qu'effectivement, les gens sont en train de fuir. Et beaucoup de femmes, là où nous parlons, sont encore une fois les plus victimes. Vous voyez, ça, c'est la réalité. C'est la malheureuse réalité de la vie, et l'auditeur a été clair avec ça. Ce qui fait qu'effectivement, que quand on prend la globalité de la question du droit de la femme, il est possible de garder, je suis d'accord avec mes co-débatteurs, il y a des avancées sur le plan des textes, n'est-ce pas? On est tout à fait d'accord. C'est là où j'ai parlé de la situation structurelle. C'est la situation effectivement de loi. Tout ce qui est loi, en grande partie, prend l'aspect structurel déjà, d'office pour le développement d'une nation. Mais sur le plan micro, n'est-ce pas, franchement, si on doit parler des avancées, je n'en vois pas assez pour que sur le plan statistique, on puisse en parler. Ici, aujourd'hui, on entend parler matin, midi, soir des campagnes, n'est-ce pas, pour qu'on ait assez des femmes dans l'armée. J'encourage, il faut le dire, pour qu'on ait les plus de Oazalendo. Parce qu'effectivement, quand vous entrez dans des camps, d'office, quand vous voyez des déplacés, c'est à plus de 80% des femmes. Or, ces femmes-là, des Amazones, comme on les disait, etc., peuvent défendre aussi, devaient continuer à mieux défendre aussi la cité. Mais malheureusement, il n'y a pas une politique globale de la défense de la cité qui mise un peu sur la femme. La défense de la nation sur la femme, parce qu'elle est nombreuse. C'est elle qui est au village, c'est elle qui est au champ, c'est elle qui est violée, et c'est elle la première victime. Donc, il n'y a pas juste que là des vraies politiques qui favorisent que la femme puisse défendre la nation. Je pense que c'était la question de l'auditeur, je vais dans son angle. C'était ça la question. Donc, je pense effectivement que le président de la République, nonobstant les efforts, pour l'instant, on devait comprendre qu'on ne doit plus parler parti politique. On doit parler unité de la République démocratique du Congo pour se battre. Or, si la femme a est plus de 60%, non, 51%, moi j'ai pas, enfin, on n'a pas encore eu de
peut-être que c'est déjà
de vrai nombre, peut-être que c'est déjà arrivé à 60%, c'est terrible quand on vit, on n'a pas des statistiques, moi je suis enseignant donc c'est grave, mais on est au moins à plus de 51%. Donc la défense de la nation doit miser sa vraie défense sur la femme. Moi, je parle de l'économie de guerre qu'on a proposée depuis très longtemps, mais bon, malheureusement, on ne nous écoute pas. Mais quand on doit parler de l'économie de guerre, qui tient la vraie économie, pas en termes de chiffres, mais la vraie économie pour nourrir plus de 80% des Congolais, ce sont les femmes. Exactement, avec le petit commerce. Donc, l'économie des guerres devait passer par des femmes. Les femmes devaient sortir de l'informel pour aller au formel nourrir exactement nos militaires, devenir riches, etc. Ce sont des stratégies, parce que je sais toujours qu'il n'y a pas de temps. Et que c'est la raison pour laquelle je passe directement à des propositions. C'est un peu comme si des gens me disent, vous êtes enseignant, vous êtes professeur, mais vous ne proposez pas. Ben, je ne suis pas président, gouverneur, etc. Je ne suis qu'enseignant. On a fait des recherches, la femme dans l'économie des guerres peut être pion principal. Et c'est possible de le faire.
Merci professeur Dadi Salé. Et Linda Ndundo, pour vous aussi, pour compléter vos réactions de tout à l'heure, nous allons écouter cet auditeur qui nous appelle depuis Kabinda.
Maître Charles Kalwanji, avocat et ancien des universités, j'interviens depuis Kabinda Ville. Tout en reconnaissant les avancées significatives dans les gouvernements en place, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire pour d'autres institutions publiques et politiques. Ce qu'on oubliera, c'est que, depuis les nuits des temps, ce sont les hommes qui dirigent et qui pillent l'État. Il s'agit là d'un pillage systématique, pour ne pas dire un pillage qui n'est pas son nom. Il y a lieu de donner la chance à la femme, tout pourrait changer. Dans ce sens, il faut protéger et défendre davantage les droits de la femme et ne pas les exposer à toute forme de violence. C'est notre façon de voir les choses si on veut que cet État change, que l'on évolue dans le bon sens.
Alors, Lisa, Linda et Ndundo, tout à l'heure, lorsque Mme Chantal parlait, je vous ai vu bouger aussi de la tête, est-ce que vous souhaitez ramasser toutes les réactions qui vous ont titillé un peu et éclairer notamment cet auditeur qui, pour lui, estimait que l'autorisation maritale restait toujours une bonne chose, même dans cette recherche de droits de la femme.
Ok. Ma collègue politique de l'FID, moi je suis du MLC, il y avait un point où je me disais, tiens, elle a l'air de sous-entendre qu'il n'y a pas la parité des salaires politiquement parlant. Mmh. Or, je n'ai jamais entendu qu'une femme députée était moins payée qu'un homme député, ni qu'une femme sénateur avait un salaire moindre qu'un homme sénateur, ni dans notre gouvernement. Donc, déjà, de ce point de vue-là, il faudrait me prouver, parce que aussi dans nos institutions, nos établissements où on nomme des mandataires.
Peut-être qu'elle pense au privé, peut-être au niveau de l'État, tout est bien.
Il me semble dans ce qu'elle a dit que le combat se situait au niveau des institutions. Donc même dans les entreprises publiques, il me semble qu'il y a un barème qui est fixé,
oui.
Et le barème n'est pas différent pour les hommes et les femmes.
En principe, non.
C'est vraiment important que nous, en tant que Congolais et qu'Africains, nous cessions d'avoir les mêmes genres de discours que l'Européen. Parce que, en tout cas, de ce point de vue-là, du point de vue des salaires dans les institutions publiques, il me semble que, à compétence égale, poste égal, tout le monde a le même salaire. J'ai noté plus ou moins. Hein, donc, alors, je ne suis pas d'accord pour la parité au niveau de l'entreprise privée. C'est-à-dire que on peut faire une sorte d'affirmation positive, c'est-à-dire que on peut pousser des entreprises contre des avantages que l'État donnerait à favoriser les femmes, mais je peux vous dire que globalement, les femmes, ça les intéresse d'avoir un mari, rester à la maison, pouvoir faire business à côté. Elles vont préférer positionner leurs enfants. Okay? La femme congolaise, clairement, à part quelques-unes qui ont comme objectif d'avoir une carrière, d'être indépendante.
Est-ce que c'est rétrograde, ce réflexe mental?
Non, c'est justement, je saute aussi sur le monsieur qui parle de « oh, ça crée des problèmes ». Je suis née en Europe, j'ai fait une grande partie de l'Europe, et quand je parle avec mes sœurs, je me rends compte que, en fait, la plupart des Congolaises, ça les intéresse d'avoir un mari responsable qui prend soin d'elles. Elles peuvent s'occuper d'elles à la maison, s'occuper de la famille, des enfants, des repas, mais elles vont faire comme dans la Bible, Proverbe 31, sont des très bonnes gestionnaires de business. Donc ne changeons pas la femme congolaise, et c'est pour ça que la femme congolaise est attaquée par les ennemis, par exemple le M23, le Rwanda, etc., parce qu'ils savent que ce qui fait tenir, ce qui faisait tenir le Zaïre, ce qui fait tenir le Congo, c'était les femmes. Les femmes dans les champs de l'Est, on avait deux greniers. On était moins dépendants qu'aujourd'hui. On avait deux greniers. Un des greniers, c'était la zone Est. Donc, la nourriture venait de l'Est. On avait les avions, on avait les routes qui étaient en meilleur état. Et de l'autre côté, on avait Bakongo Bandundu. Quand on parle, par exemple, de Kinshasa, okay, aujourd'hui, le Goma est quelquefois même dépendant pour certaines choses des pays externes. Ce n'était pas vraiment le cas, point de vue nourriture fraîche et tout. Donc, alors, ce qui me fait titiller, bon, par exemple, le monsieur qui parle de... Oui, voilà, ça nous cause des problèmes aujourd'hui avec les femmes, non. Ce qui cause problème, c'est ce qui passe à la télévision, c'est les discours de féminisme et tout ça. Les femmes congolaises avaient déjà une banque. Vous savez où était la banque ? Dans le pagne. Donc, le mari...
Le fameux Maboko Bank, oui, ou l'Ikuta Bank.
Et elles avaient beaucoup d'argent. Donc, vous parlez à une maman, déjà, une maman, elle va vous sortir l'argent. Le mari même savait que moi, c'est Nanga Azanala. Donc, la dispute entre les femmes et les hommes aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'autorisation bancaire. D'ailleurs, c'est reconnu que très peu de... Le pourcentage des femmes bancarisées, c'est pourquoi il y a eu les FIMCA, les trucs comme ça, parce qu'on a des femmes commerçantes qui avaient de l'or en barre, si on peut dire, qu'il y avait des trésors d'argent, ok. Et on a aussi cassé les tontines. On a rendu les tontines illégales, alors qu'on a les entreprises de loterie qui, sans être légiférées, sont en train d'amasser tout cet argent-là. Ok, mais on a illégalisé les tontines parce que c'est quelque chose que l'Europe est venue avec ça, et tout cet argent que les femmes avaient au travers des tontines a été accaparé par les FIMCA. Et c'est là où je trouve qu'il doit y avoir des lois, parce que je ne vois pas ce que ces entreprises de coopération, de prêt aux femmes ont fait. Un autre point qui est vraiment important pour moi, c'est que j'ai l'impression, quand j'entends un peu monsieur le professeur et qui a ses théories, et je ne sais plus trop si ma collègue politique aussi l'a mis en avant, a la même impression, mais moi j'ai l'impression, quand j'entends la non avancée, ok, on a est-ce que c'est les Congolais qui violent les femmes? On est en train de parler de l'avancement du Congo. Oui, nous constatons que le viol des femmes, ok, les tueries du Congo, j'apprends que à 64%, ce sont des femmes, ok. Mais ça concerne le Congo parce que nous sommes touchés par ça, mais ça concerne pas le Congo parce que c'est pas les Congolais qui tuent ces femmes, c'est pas les Congolais qui violent ces femmes. Donc, ce n'est pas un problème d'avancée du Congo, c'est le problème d'avancée du Rwanda, qui a une majorité de femmes au Parlement, qui emprisonne ces femmes lorsqu'il y a des élections au Rwanda. Et heureusement, cette fois-ci, les candidates femmes n'ont pas été mises en prison. C'est un problème de mentalité des Rwandais, des Ougandais qui peuvent nous attaquer, de ces rébellions qui sont composées et qui sont soutenues par des établissements ou des organismes ou des multinationales. Multinationales.
Linda,
c'est pas les Congolais.
Vous l'avez dit,
oui. On ne peut pas dire qu'on met ça dans le bilan de l'avancée.
Des luttes,
ça, non. Le viol et le meurtre, non. Mais est-ce qu'il y a eu paupérisation de la femme? Ben oui, comme je le dis. À partir du moment où on s'attaque aux femmes et qu'elles ne peuvent plus
produire.
À partir du moment où l'État permet à des entreprises bancaires de prendre l'argent des femmes, mais que l'État ne fait pas le suivi, vous êtes venu pour aider les femmes à se formaliser. Vous êtes venu pour... Nanana. Quel est le résultat? À partir du moment où on interdit officiellement les tontines et les choses qui permettent aux femmes d'être toujours le pilier du Congo, là maintenant, il y a un problème.
Linda Ndundu, merci. On fera un dernier tour de table pour conclure cette émission, notamment avec les propositions sur les aspects qui n'ont pas beaucoup évolué dans la lutte de la femme pour ses droits. Et avant de donner la parole à Mme Chantal Mauboni, justement par rapport à l'aspect législatif, il y a un auditeur qui dit, je le cite, il s'appelle Joseph, « Les députés doivent proposer des lois qui fixent l'égalité du poste homme-femme au sein du gouvernement et partout là où on doit mettre un être humain, 10% de ministres, 10% de ministres hommes, 10% de ministres femmes, c'est ce qu'il écrit, et il finit en disant, je dirais que l'égalité doit être dans le pouvoir. Alors, pour Chantal Boboni, secrétaire nationale chargée de la communication du parti politique SID et communicant de la plateforme La Moka, pour vous, madame, nous allons écouter ce commentaire qui nous vient de Chabunda.
Maître David Massandi Chabani, depuis Chabunda, au Sud Kiv. Les femmes doivent se réjouir du fait de leur représentativité aux institutions du pays. Le problème n'est pas celui-là. Il leur reste la compétitivité. Le pouvoir s'arrache. Elle commence par créer le parti politique afin de s'adapter au système. Il est inadmissible, cette revendication, au fait, à la tête du gouvernement, qui est dirigé par une des leurs, dont ses débits ne semblent pas être loin des hommes qui ont promis les changements, mais, au finish, rien n'a changé. Même l'enfant ne naît pas le même jour, puis commence à marcher. Elles sont conscientes des climats qu'elles traversent les pays.
Chantal Moboni.
Oui, merci beaucoup. Je dirais d'abord que la parité est opposable à tous du fait que c'est une loi, c'est inscrit dans la Constitution dans son article 14. Et à mon introduction, j'ai épinglé même la loi organique contestée. Donc c'est opposable à tous, que ce soit au niveau privé comme au niveau de l'État. Et c'est la loi, c'est opposable à tout le monde. Là, c'est pour répondre à ma sœur Linda. Je voulais aussi dire que nous ne parlons pas de la parité que pour des femmes politiques, parce que la thématique a parlé de droits de femmes, et ce n'est pas que les femmes politiques qui ont de droits. Moi, vous avez plus parlé de l'expérience au niveau de l'extérieur du pays, mais moi je vous dirais que j'étais déléguée syndicale dans une entreprise de la place. Je vais vous dire que les femmes dans le milieu professionnel ont beaucoup de problèmes. Quand je dis à compétence égale, elles sont compétentes comme les hommes, mais la promotion des femmes est subordonnée à beaucoup de choses.
Mais le problème de salaire est quand même résolu, non, madame Chantal Moboni?
Bon, comment on va parler d'abord de la résolution de ce problème, étant donné que dans le pays, on n'a même pas les SMIC, on n'a même pas la tension salariale. Parce que nous luttons contre la discrimination à l'égard de femmes. Et quand nous voyons la discrimination, nous ne voyons pas que de nomination de femmes politiques. Nous voyons même cette femme qui est dans une entreprise publique, qui n'est pas promue, qui a toutes les compétences, qui a fait un parcours au sein de l'entreprise. Mais pour nommer les DG, on part chercher les hommes ailleurs qui sont dans des partis politiques parce qu'elle est femme, elle n'est pas nommée. On voit même des filles à l'université qui sont intelligentes, mais qui ne peuvent pas passer des classes parce qu'il y a réclamation de code sexuellement transmissible. C'est ça, c'est à tout le niveau. C'est-à-dire, nous luttons contre ces discriminations. Et nous voyons même dans des entreprises, il y a des gens qui ont de mêmes fonctions, qui ont la même ancienneté, qui travaillent, mais qui ne sont pas rémunérés de la même façon. Donc, c'est ça ce que nous avions dit, maman Linda. Pour répondre à notre auditeur qui a parlé, il faut la compétitivité.
Le pouvoir s'arrache, il ne faut pas demander et pleurnicher. Selon lui.
Non, on n'est pas en train de pleurnicher. On est en train de parler. Je pense que la thématique a été limitée par rapport aux avancées sur le droit des femmes, sur la question, on s'est attelé sur la question de la représentativité des femmes. Maintenant, pour dire ici, c'est qu'il faudrait que l'État mette les conditions. L'État doit mettre des conditions pouvant permettre à ce que la femme puisse vraiment montrer de quoi elle est capable. Parce que nous avons le ministère du genre, par exemple. Il est aussi important qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement, on puisse un peu voir quelles sont, même au niveau du gouvernement, les attributions de ces ministères du genre. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on vote le ministère du genre que le 8 mars. Quelle est la politique publique du gouvernement par rapport à la promotion de la femme?
Chantal Moboni.
La promotion de la sexualité.
Chantal Moboni.
Il faudrait mettre en place.
Chantal Moboni, oui. Malheureusement, cette émission a un timing que nous devons nous efforcer de respecter. Nous sommes arrivés au moment de conclure. Vous étiez en train de vous poser des questions, mais nous, on va essayer de faire plutôt un effort. à la fin de cette émission de proposer les solutions aux questions que même nous-mêmes nous sommes en train de vous poser, y compris vous-même, madame. Vous êtes secrétaire nationale chargée de la communication du parti politique SID et communicant de la plateforme. Nous avons noté, si je me trompe, vous allez me corriger, que globalement, au niveau de la représentation politique, il y a de fortes avancées et que dans la mentalité congolaise, de manière collective, il y a cette envie d'aller vers des progrès. On a vu ce qui a été relaté ici avec Madame Ndundo, avec le président Kasavubu Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Kabila Fils, tout comme aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi. Il y a eu d'évolution, mais qu'au niveau, par exemple, financier, il reste encore des défis. Au niveau législatif et institutionnel, vous-même, vous avez émis une envie de voir des choses avancer. Sur ces questions particulièrement, notamment des finances et des institutions, quelles solutions pourriez-vous proposer pour atteindre les objectifs des droits de la femme congolaise attendus?
Bon, j'avais dit que la situation est évolutive, hein. Je n'ai pas dit qu'il y a eu de fortes avancées. Et j'ai donné le point, j'ai situé tout le point. La situation, elle est évolutive. Maintenant, pour dire qu'est-ce qu'il faille faire, le problème aujourd'hui, c'est d'abord la prise de conscience individuelle en tant que femme et puis sociétale. Il faudrait que la société prenne conscience que sans la femme, il n'y a pas de développement parce qu'elle est une puissance. J'avais parlé à mon introduction ici, sur le plan démographique, elle est une puissance. Et elle est en train de travailler dans l'informel et elle a de l'influence sur l'économie et elle est le socle de tout. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il faudrait que l'État mette en place des politiques publiques permettant à ce que la femme avance. Mais j'aimerais aussi placer un mot pour dire que la femme aujourd'hui, comme a dit ma soeur Linda, que la femme voudrait avoir son argent, faire ses affaires et consorts. Non, moi, en tant que aussi membre présent de l'ONG, on a eu à faire des enquêtes sociologiques. Si la plupart des femmes sont dans le commerce et tout, c'est parce qu'il n'y a pas de création d'emplois. S'il y avait des emplois, les femmes seraient dans des bureaux. Les femmes ont accepté, ont voulu, ils sont en train de chercher à se perfectionner, à étudier, à aller de l'avant pour pouvoir occuper des postes. Mais le problème, la situation économique ne permet pas à ce qu'il y ait des emplois et consorts et les gens se réfugient au niveau de créer ses business propres, tout ça, c'est chercher de l'argent. Moi, je pense que ça, c'est une pensée qui était avant, mais aujourd'hui, la femme veut mieux, la femme veut aller mieux. On a besoin de l'éducation de la femme. On a besoin de la sensibilisation et de la femme et de la société. Parce qu'il faudrait que la société puisse changer sa façon de considérer la femme. On doit enlever les préjugés contre la femme. Et on doit utiliser une communication adéquate au travers de la radio-télévision nationale congolaise, par exemple. Les ministères du genre peuvent faire des modules, peuvent faire de planification pour chercher à sensibiliser les femmes, même sur leurs droits, que les femmes connaissent la loi, que les femmes connaissent la philosophie de la lutte. Donc c'est important que nous ayons vraiment le temps de sensibilisation, de mobilisation. Et puis, quand on est politique, quand il y a des nominations, c'est vrai, la représentativité, il y a des femmes. Mais les politiques ont un devoir de faire de façon qu'ils puissent répondre aux aspirations du peuple. Mais nous allons plus juger la première ministre ou nos sœurs qui sont dans le gouvernement, c'est après l'exercice de leur fonction, comme a dit Sébastien Nadeau, le député français, c'est qu'il préfère être appelé honorable après la législature, parce qu'il aura vraiment à présenter ce qu'il a fait pendant la législature.
Merci.
Donc aujourd'hui, il ne suffit pas d'être représentante de femmes, mais il suffit de travailler correctement de façon à influencer la société et à changer la situation sociale de ménage. C'est pourquoi nous nous battons pour le panier de la ménagère.
Merci, Madame Chantal Moboni. Professeur Dadis Allais, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs, aussi bien du pays qu'à l'extérieur du pays. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que la femme est encore en proie à des affres, notamment de l'insécurité, de la guerre et de la violence en République démocratique du Congo, et que cet aspect-là, pour vous, étant donné qu'elle représente la population la plus importante, finit par balayer les efforts que vous avez reconnus comme ici, jusqu'ici, pour les droits de la femme. Qu'est-ce qu'il faut alors comme solution pour ramener le pourcentage aussi bien politique, institutionnel, juridique, au même niveau que la sécurité des populations, notamment les populations féminines?
Oui, rapidement, pour revenir un peu à notre co-débatteur, au fond, c'est pas une leçon, c'est juste le développement. Les causes exogènes, les causes endogènes dans le développement, toutes ces causes-là, ça va, les bilans dépendent de ça. C'est un peu comme le PIB. Le PIB, c'est la production et des étrangers et la production des locaux. C'est la même chose. Donc, il faut bien comprendre. Ce n'est pas possible que vous vous violiez, ça va, des millions de femmes et que vous pensez que ce n'est pas un bilan. Non, non, c'est un bilan. Ça affecte effectivement la femme et malheureusement négativement. C'est pas possible, madame, qu'on puisse tuer 8 millions de femmes et que vous pensez que c'est pas dans le bilan des femmes. Non, c'est un point négatif. Même si celui qui les aurait tués pourrait être même un Américain, un Français, ou bien une bombe Hiroshima, Nagasaki, donc au fond. C'est une clarification. Ça fait partie du bilan. Et le problème, effectivement, c'est même ça le problème politique. C'est que beaucoup de politiciens, quand ils font le bilan, ils font le bilan à leur guise. Leur guise, c'est quoi? J'ai fait une loi, voilà le bilan positif. Non, c'est un point. Il s'agit d'avancer. Mais le bilan est considéré par rapport à une globalisation de la vie, n'est-ce pas, politique, économique, sociale d'une population. C'est à ce moment-là qu'on parle du bilan. Sinon, on viendrait ici pour parler des 64 ans, ça va, des membres qu'on nomme aux institutions.
Alors, là, le bilan est positif. Par rapport à votre, justement, critère préférentiel, qui est la violence faite aux femmes, qui est importante en RDC, quelle solution, selon vous, doit être
globalement appliqué? J'ai une petite solution qui est scientifique, c'est mon travail, n'est-ce pas, où je parle un peu de la formule magique du professeur Dr Dadi Salé Kouji-Tegemea. Nous avons un premier problème de philosophie de la considération de la femme, ça va dans les développements. Quelle est la philosophie? Moi j'ai proposé la philosophie Kouji-Tegemea, mais quelle est la philosophie du gouvernement, ou bien entre guillemets, pour ne pas parler du gouvernement, parce que ça c'est un point un peu sociologique. Une philosophie ne dépend pas, ne devait pas dépendre d'un gouvernement. Quelle est la philosophie de la considération de la femme? Si on doit prendre les 450 groupes ethniques, quelle est la moyenne? Je pense qu'il faut trouver une philosophie. Moi, j'ai proposé la philosophie Kouji-Tegemea. La philosophie qui va nous renvoyer à une liberté. Quel est le degré de liberté de la femme pour aujourd'hui dans nos sociétés? Les gens en ont encore parlé. Puisque l'autre intervenante a si bien dit, qu'est-ce qu'on va enseigner? Ça va, on va faire quel module? Moi, j'ai déjà le contenu de ce module, puisque les gens en parlent sans proposer de contenu. Quelle est la liberté de la femme, le degré de liberté de la femme pour qu'elle se développe aujourd'hui en République démocratique du Congo, prenant les aspects sociologiques?
Rapidement, quelques pistes, 2, 3, 4 à proposer.
Eh bien, rapidement, on doit rentrer à la philosophie, puisque c'est dans la philosophie qu'on a l'éducation, qu'on a les mœurs, qu'on a effectivement l'environnement, qu'on a un peu tout cela, pour aller maintenant vers les idées. Quand on a la liberté même de proposer, ça va, ça c'est le troisième point, on a les idées maintenant qui coulent, mais dépendant d'une philosophie. Parce que quand vous avez des idées disparates, trop dispersées, à vrai dire, vous n'avez rien. Dans le développement, ce n'est pas avoir plusieurs idées comme en République démocratique du Congo que vous développez une communauté. Ici, pour l'instant, d'ailleurs, on le dit suffisamment, ce sont les intellectuels, les gens qui dirigent la République démocratique du Congo qui deviennent un frein. Vous comprenez, par exemple, ils ne comprennent pas qu'on doit se mettre ensemble pour se battre contre le Rwanda. Ils préfèrent chacun être ministre, je suis dans l'opposition à la majorité, et les Rwandais sont en train de nous montrer ce qu'on est en train de voir. À cause de quoi? De cette incompréhension. Enfin, il y a la mise en œuvre. La mise en œuvre de la femme, c'est-à-dire que vraiment l'application, c'est là où on parle des bureaux, on parle des gens qui travaillent, des capacités, de l'expérience et de l'expertise qu'il faut continuer à développer. Écoutez, il y a un point très capital. Quand nous parlons du travail, moi je parle plutôt du travail mal rémunéré. Ce sont les femmes qui sont plus employées en République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Parce que je vous ai parlé de plus de 80%, 83% des gens qui vivent en état de pauvreté. Et ce sont nos mamans qui nous nourrissent. C'est le travail. Mais on ne sait pas valoriser ce travail-là. L'État congolais n'a pas une politique, effectivement, de microcrédit, ça va, des microfinances, pour permettre exactement à ces femmes de s'en sortir. Mais elles sont les plus employées. Les 10% qui sont à la MONUSCO, excusez-moi les mots, qui sont au gouvernement, non, ça ce sont des exceptions. Mais quand les gens qui sont au gouvernement ne comprennent pas ce que j'ai dit, ils pensent que les femmes maintenant sont très bien. Non!
Les femmes restent malheureusement paupérisées, ne sont pas dans dans des conditions où elles doivent émerger et s'en sortir.
Merci, professeur Dadi Salé. Vous l'avez dit, Linda Ndundo Bononge, personnalité politique, job et business facilitatrice et formatrice également, cofondatrice du groupement des femmes politiques indépendantes, membre de l'Union Sacrée. Alors, sur les aspects qui n'ont pas forcément explosé, comme sur le plan de l'exposition de la femme au niveau politique, sur le plan social, sur le plan des finances, sur le plan notamment des violences faites aux femmes, quelles sont les solutions que vous pourrez proposer?
Bon, d'abord, la parité, elle existe à l'article 14 et elle s'applique uniquement dans les institutions publiques. Mais l'article 14 dit que l'État doit pouvoir aider et garantir aux femmes dans le secteur privé et public une protection contre la discrimination et l'accessibilité. Il faut pas, on n'est pas dans l'égalitarisme, hein. Donc dans le privé, autant les jeunes, autant les handicapés, autant les hommes, autant les femmes doivent être au même niveau. Ou sinon, on va avoir une société congolaise non compétitive où on va favoriser les femmes parce qu'elles doivent être favorisées partout, même dans le privé. Et on va se retrouver avec des multinationales qui, elles, ne le font pas. Ok, donc je suis tout à fait contre le fait, surtout en tant que job facilitatrice. Moi, j'ai plein de jeunes qui cherchent des boulots, et franchement, parler avec beaucoup de femmes. Pourquoi les femmes, y a très peu de femmes qui travaillent dans les cuisines? Pourquoi il y a très peu de femmes qui travaillent en tant que personnes à la maison? Parce que dès qu'elles ont un peu d'argent et qu'elles ont un chéri, elles achètent une machine, elles font tout pour rien. Ça fait partie de l'ADN de la femme congolaise. La femme congolaise est partout connue dans le monde en tant que commerçante. Il ne faut pas venir nous mettre une étiquette de femme qui va travailler dans un bureau parce qu'il y a une minorité que vous rencontrez, hein, qui s'habille à l'européenne et qui ceci, cela, et automatiquement vous allez dire que toutes les femmes ont envie d'être dans les bureaux. Déjà, les bureaux ne payent pas autant que les métiers de l'extérieur. Alors, les solutions. Moi, je pense qu'il faut imposer la parité à l'université. Est-ce qu'on a une rectrice femme ici, en République démocratique du Congo, mais à Édimbourg, en Angleterre, on a Deborah Kayembe. Ok, donc on parle des notes avec et sans capote. Ok, ben écoutez, excusez-moi, mais si déjà au niveau universitaire et scolaire, on voit la parité et on impose la parité, c'est-à-dire que comment voulez-vous éduquer les gens à donner la même chance aux femmes, aux jeunes et tout, et alors que ce soit combien de recteurs même avec handicap, parce que nous, groupement des femmes politiques indépendantes, on soutient les jeunes, on veut la parité pour les femmes, on soutient les jeunes et les personnes avec de nombreuses difficultés et qu'il n'y a pas une démarche inclusive. Combien de chefs d'université ou de fondateurs d'université femmes? Moi, j'ai déjà proposé à des femmes que arrêtons de parler. Qu'est-ce qui nous empêche de faire une université avec des fondatrices femmes, plus de professeurs femmes, ok? Et on a assez de dames qui peuvent donner des formations dans des universités. Et on sollicite un agrément, et puis voilà. Donc la majorité en général des étudiants qui viendront seront des femmes. Et elles sauront que dans ces universités, dans ces instituts-là, il y a moins de chances que... Regardez même au primaire, il y a plus d'hommes professeurs que de femmes professeurs.
Linda est d'une retenue par le temps. Peut-être une dernière proposition, une ou deux dernières.
Ben, la même chose, les hôpitaux, les chefs d'entreprise. Pourquoi dire à une femme qu'elle doit chercher un emploi? Ok? Eh mais non, aidez-la à devenir chef d'entreprise, comme ça on aura des entreprises où les femmes sont des leaders, parce que c'est elles-mêmes qui auront décidé, elles auront... Alors, les hommes doivent arrêter aussi de parler, il faut qu'ils aillent au front, hein, et qu'ils nous laissent nous occuper du Congo.
Merci donc à Madame Linda Ndundu Bononge, personnalité politique, job et business facilitatrice, et formatrice, également cofondatrice du groupement des femmes politiques indépendante, membre de l'Union Sacrée. Merci également à vous, Madame Chantal Moboni, secrétaire nationale chargée de la communication du parti politique SID et communicant de la plateforme La Moukatoukom. À vous, professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud, enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC, tout comme à l'étranger. Mimi Kindou, Jonathan Fouanani, Guimate Clément Chimanga et Hervé Voka m'ont aidé à produire l'émission de ce soir. Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour cette soirée. Au revoir et à bientôt.